Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une première image brumeuse, assombrie par un nuage de poussière au moment de son atterrissage, puis une vue de Mars comme en sépia du sol rocheux jusqu'à l'horizon. Ce sont les premières photos envoyées par InSight, la sonde envoyée par la NASA sur Mars. Elle s'est parfaitement posée hier soir sur la planète rouge, un défi de taille quand on sait que moins de la moitié des missions ont réussi à ce jour.
Sur Terre, Catherine, Emmanuel Macron va tenter ce matin d'apporter une réponse claire à ce qu'il a appelé les classes laborieuses dimanche. Présentation de la politique énergétique en France pour les 10 prochaines années. Quelle place pour le nucléaire, pour l'éolien, le solaire? La réponse aura un impact sur l'emploi, vous l'entendrez.
À la une encore, la Russie toujours sous le feu des critiques après sa confrontation maritime avec l'Ukraine en mer Noire près de la Crimée. Et puis un procès pour une campagne de viol massif en République démocratique du Congo. Premier procès du genre qui s'ouvre aujourd'hui à Goma.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, une question d'actualité autour des transports, avec en filigrane évidemment la protestation des gilets jaunes, transport de demain, que peut changer la loi mobilité? Nous poserons cette question à Michel Savy, qui est professeur émérite à l'université Paris-Est.
30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
Elle a survécu aux 7 minutes d'enfer que constitue la traversée de l'atmosphère martienne. La sonde InSight s'est posée avec succès hier soir sur la planète rouge au terme de 7 mois de voyage et de 7 années de préparation. L'inquiétude des scientifiques et des ingénieurs lisibles sur les visages à la NASA a laissé place aux accolades et aux applaudissements. Soulagement quand on sait qu'une mission sur deux échoue. InSight doit maintenant sonder l'intérieur de Mars, de la croûte jusqu'au noyau, dont on ignore s'il est liquide ou solide. Un sismomètre fabriqué en grande partie par des Français s'apprête à étudier les tremblements de Mars. Les chercheurs espèrent en apprendre davantage sur la formation des planètes, comprendre pourquoi Mars, une sorte de sœur de la Terre, planète rocheuse, est devenue une planète morte, alors que la Terre est devenue, elle, habitable. Beaucoup de travail encore, mais la phase la plus critique est passée, Sophie Becherel.
Certains n'ont pu contenir leurs larmes. Acmé de longs mois d'attente et d'une descente finale à haut risque, Chloé Michaud, planétologue à l'École normale supérieure de Lyon.
C'est fantastique, hein, on est super heureux là, c'est génial, c'est fou, on est arrivé à se poser. On va avoir deux instruments et ça va nous révéler plein de choses sur l'histoire de Mars et aussi sur la Terre.
Même vague d'émotion pour Philippe Lognonnet, le responsable du sismomètre, l'instrument qui servira à écouter battre le cœur de Mars. Cette mission, il l'avait imaginée en conclusion de sa thèse de doctorat. Elle a échoué à deux reprises, jusqu'à hier soir, la troisième tentative.
Évidemment, j'étais très ému parce que c'est un investissement qui date depuis très très longtemps. Avec Bruce Bannert, nos enfants avaient 3-4 ans quand on a commencé à les embêter avec l'exploration de Mars. C'est une grande émotion parce que c'est une grande partie de ma vie.
Aujourd'hui, son fils a 27 ans.
En plus, on vient d'avoir une confirmation qu'il n'y a pas de cailloux devant l'atterrisseur. Donc, je ne dis pas que ça va être facile de déployer, mais en tout cas, ça se présente très très bien. Donc, on est tous très heureux.
Une zone meuble sans cailloux, c'est le site idéal pour déposer à présent le sismomètre. Il sera descendu de l'atterrisseur avec une grue embarquée le 10 décembre prochain. Alors, l'enregistrement des tremblements de Mars pourra commencer.
Ça fait un bien fou de pouvoir se déployer, de recharger les batteries. C'est juste ce qu'il me faut pour me mettre sur la même longueur d'onde avec Mars. C'est l'un des tweets de la sonde InSight qui envoie régulièrement des sortes de cartes postales sur son exploration de la planète rouge depuis le compte NASA InSight. Combien de réacteurs nucléaires vont fermer en France d'ici 10 ans? Quelle place pour l'éolien, pour le solaire? Emmanuel Macron présente ce matin à l'Élysée la feuille de route énergétique de la France pour les 10 ans à venir. Pour écouter le président à l'Élysée, tout le banc et l'arrière-banc des corps intermédiaires, syndicats, élus, représentants d'ONG et d'associations, économistes, scientifiques, ils seront bientôt associés au sein d'un haut conseil pour le climat. Mais toujours pas de gilets jaunes à l'Élysée, malgré leur tentative de structurer leur mouvement. Une délégation de 8 communicants officiels a été créé hier après-midi à Elgoz.
Attention, mouvement non stabilisé, coupé en deux entre séditieux et manifestants sincères. Ça, c'était la grille de lecture de l'Élysée jusqu'à hier midi. Dans ces conditions, pas d'invitation possible. Depuis, les gilets jaunes se sont organisés, mais même en délégation, ils devront encore patienter pour être reçus. C'est trop tard pour ce matin, explique un conseiller. Car aujourd'hui, l'Élysée célèbre le retour des corps intermédiaires et il faut ménager les syndicats. Eux, ils ont une démocratie interne. Ce serait compliqué en 24 heures de les mettre sur un pied d'égalité avec des délégués auto-désignés sur Facebook. Et puis, il y a chassé-croisé sur la méthode. Le mouvement se coordonne au national au moment où le gouvernement souhaite associer les gilets jaunes à des consultations en région. Enfin, quelle représentativité ? Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Sur les réseaux circule un nouvel appel à manifester samedi à Paris. Appel démenti par la délégation dite officielle. D'où la prudence du gouvernement qui entrouvre la porte mais redoute la surenchère.
En pleine fronde des gilets jaunes donc, Emmanuel Macron tentera d'apporter ce matin une réponse claire à ce qu'il a appelé les classes laborieuses dimanche à Bruxelles. L'heure de vérité pour la politique de transition énergétique en France et les réponses sociales aux efforts demandés pour maintenir le cap de la trajectoire anti-carbone. Augmentation de la part des énergies renouvelables, diminution de la part du nucléaire, la répartition choisie aura un impact sur l'économie et sur l'emploi, Catherine Pétillon.
Ce qui se joue, c'est aussi l'avenir économique de marchés entiers liés à l'électricité, la chaleur ou encore au transport. Même s'il reste difficile à quantifier, il existe un gisement de croissance lié à la transition énergétique entre 280 000 et 400 000 emplois en 2030 en fonction des scénarios. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, les marchés liés à l'amélioration de l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ont déjà plus que doublé entre 2006 et 2015. Ils dépassent désormais les 67 milliards d'euros. Quant aux emplois, ils ont progressé de plus de 70% dans la même période, et ce, dans de nombreux secteurs. Parmi les plus vivaces, le bâtiment. Des professionnels y sont recrutés pour isoler l'existant, améliorer l'efficacité énergétique ou encore diminuer la consommation. La nouvelle programmation de l'énergie aura aussi un impact sur la capacité ou non de secteurs émergents à se renforcer et se constituer en filières, comme par exemple ceux de l'éolien en mer ou de la méthanisation. Mais l'enjeu, c'est aussi que ces effets ne soient pas contrebalancés par les disparitions d'emplois dans les filières énergétiques classiques et dans certains secteurs industriels, comme l'automobile. D'ailleurs, dans le nucléaire, les inquiétudes se sont déjà faites entendre. Le secteur représente autour des 200 000 emplois, même si le chiffre varie selon que l'on compte ou non les sous-traitants. Et les syndicats craignent une menace pour un tiers ou la moitié des emplois, selon le scénario retenu pour la PPE. L'accompagnement économique et social n'est pas à proprement défini par la PPE. Pour évaluer les besoins d'évolution des emplois et des compétences, une mission a été confiée en début d'année à Laurence Parisot. L'ancienne présidente du MEDEF devra élaborer un plan de programmation prévu par la loi.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. La Russie toujours sous le feu des critiques après sa confrontation maritime avec l'Ukraine en mer Noire près de la Crimée.
Plusieurs marins ukrainiens blessés dimanche soir, 3 navires capturés. Kiev a annoncé l'instauration de la loi martiale pour répondre à toute nouvelle menace de la Russie. Si Moscou n'a pas réussi à imposer ses arguments hier au Conseil de sécurité de l'ONU, la réunion a tourné court sous la pression des États-Unis et des Européens. La Russie n'est pas forcément prête à entendre les différentes demandes de l'OTAN, Pierre Benazé.
L'OTAN en appelle à la Russie pour que les marins et les navires ukrainiens puissent repartir librement. L'Alliance demande aussi à Moscou de garantir aux navires ukrainiens la liberté de navigation dans le détroit de Kerch et la mer d'Azov. Malgré sa préoccupation pour les marins ukrainiens blessés lors des arraisonnements et afin d'éviter que la situation dégénère, l'Alliance appelle donc au calme. L'OTAN veut maintenir le dialogue déjà en place avec la Russie. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN.
La situation en Ukraine et autour, y compris la mer d'Azov, la mer Noire et la militarisation de la Crimée, a été évoquée maintes fois lors des réunions avec la Russie. Nous avons même remis le sujet sur le tapis il y a quelques semaines lors du dernier conseil OTAN-Russie. L'OTAN a entrepris les plus importants des renforcements de sa défense collective depuis une génération. La Russie doit comprendre que c'est une conséquence de ses actions.
Selon les termes de leur partenariat, l'Ukraine a le droit de demander la convocation de la commission conjointe avec l'OTAN en cas de menace directe à sa sécurité, son indépendance ou son intégrité territoriale. L'Alliance Atlantique a assuré l'Ukraine de son soutien à son intégrité territoriale et de son côté, l'Union européenne a elle aussi demander le rétablissement de la liberté de passage dans le détroit de Kerch.
Correspondant signé Pierre Benazé pour RFI et France Culture à Bruxelles. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé au Caire hier soir, accueilli par le président Abdel Fattah al-Sissi dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Mohamed Ben Salman doit se rendre en Tunisie aujourd'hui où de nombreux habitants ont déjà manifesté contre la venue du prince héritier saoudien, accusé de ne pas respecter les droits des femmes dans son pays, accusé d'avoir des pétrodollars souillés par le sang des peuples du Yémen, de la Syrie et du journaliste Jamal Khashoggi. Tension autour de la tournée d'MBS à l'étranger. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Direction la République démocratique du Congo à présent, avec l'ouverture aujourd'hui du procès du rebelle Thabo Ntaberi Sheka, accusé avec sa milice d'avoir mené fin 2010 une campagne de viol massive dans la province du Nord Kivu. Le reportage à Goma d'Anthony Fouchard.
C'est un des rebelles les plus sanguinaires de la République démocratique du Congo. Un de ceux capables de violer 387 personnes en 4 jours, hommes, femmes et enfants, peu importe, dans le seul objectif de dépeupler des villages entiers pour en prendre le contrôle. À quelques kilomètres de Goma, Mirabel Ndiakourou Timana a survécu à Sheka et ses hommes, pas sa famille.
Ils sont venus dans le village, ils ont tiré. Et quand ils sont repartis, tout le monde comptait ses morts. Même le chef du village aidait les gens à enterrer leur famille. On a passé la journée à faire ça. Puis j'ai fui avec tous les autres et je ne suis jamais revenu.
Mirabel a atterri dans le camp de déplacés de Mugunga, bien loin de sa terre natale. Aujourd'hui, ce camp a officiellement fermé, mais certains n'ont pas voulu le quitter, comme Gina Zabimanana.
Ils nous tuaient parce que nous n'étions pas de la même ethnie que lui. Alors lui et ses hommes venaient nous terroriser. Ils vérifiaient si on comprenait le swahili. Moi, je suis Hutu, je ne parlais pas cette langue à l'époque. Alors ils disaient qu'on était de la saleté, qu'il fallait nettoyer, et ils nous tuaient.
Sheka s'est rendu de lui-même à l'ONU en 2017. Sa milice, elle, est toujours active. C'est la justice congolaise qui va le juger. Une salle spéciale a même été construite à Goma pour accueillir les victimes.
Anthony Fouchard en République démocratique du Congo pour France Culture. C'est une mauvaise nouvelle pour la Maison Blanche, mais avant tout pour les cols bleus, les ouvriers de l'Ohio notamment, qui avaient fait basculer leur état dans le camp républicain lors de la dernière présidentielle. General Motors a annoncé hier la suppression de 14 000 emplois, 15% des effectifs du groupe. Question de compétitivité, explique le premier groupe automobile des États-Unis. General Motors va fermer 7 usines, dont 4 aux États-Unis. Colère de Donald Trump, qui avait défendu l'emploi automobile américain pendant la présidentielle. Des fermetures d'usines appréciées, en revanche, par les investisseurs en bourse. L'action de General Motors s'est envolée de près de 5% hier à la clôture à Wall Street. Le temps de ce mardi 27 novembre, deux nouvelles pluies sont attendues sur le nord-ouest, tandis que le soleil va briller près de la Méditerranée. Entre les deux, une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 4 et 8 degrés du nord-est au centre-est du pays. 9 à 17 degrés partout ailleurs, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu, 7h13 sur France Culture. Dans quelques instants, on va parler des transports de demain par rapport à cette loi mobilité.